du temps bientôt. Carré ce cerf. Alors il fait rendre au maximum sa possibilité, il fait subir à Jupiter au maximum l'effort qu'il doit faire pour vraiment être à cette puissance qui envoie et qui donne. Jupiter ne donne plus pour un moment, il ne donne presque plus rien pour un moment, il est suspendu dans un moment de crise, de développement. À ce moment précis, vous verrez que dans les gens, il y a une maladie infectieuse qui se déclare, cette fois je l'ai vu dans les thèmes. Une maladie infectieuse vient craquer à ce moment-là. Si le thème veut que ce soit dans la partie du corps que le Jupiter joue le plus fort. Car nous avons des thèmes où le Jupiter joue très fort pour le corps et pas du tout pour la bourse. Il a eu grand bénéfique partout. Mais enfin, il ne peut pas être distribué généralement partout à la fois également. Mais là où il est surtout dans l'organisme, là il joue, dans le thème, il joue surtout, il apporte les bienfaits de la santé physique, de la santé corporelle, c'est là où il faut se méfier s'il a cette. Il vient à un moment. S'il vient à une quadrature de Pluton, tout simplement que le Pluton le rattrape par derrière, et sans aspect à la naissance. Ne soyez pas étonnés, quelques-uns de vous qui travaillez les thèmes, surveillez ça, ne soyez pas étonnés que l'infection a commencé au moment où le transit a fait le carré. Tout d'un coup, Jupiter s'est senti hypothéqué, alourdi, retenu. Il n'a pas donné son plein. Il l'a donné à moitié. Et alors, tout de suite, les microbes et leur Jupiter se sont installés à la place. C'est une bataille entre les Jupiters. Voilà Jupiter, mes amis. Quatrième synthèse de Mercure. Quatrième synthèse de Mercure. Est-ce que vous me suivez? Bon. Quatrième puissance de l'idéation. L'idéation élevée à sa quatrième puissance. Voilà pourquoi le regard de Jupiter, de Sagittaire, voit loin. Car il voit avec un télescope. Alors qu'on voit avec des verres ordinaires, avec le Mercure. On voit ce qui est droit devant soi. Sinon, on est myope, on voit ce qui est droit devant soi. On voit un peu plus loin avec ça, le 4. On voit plus loin encore avec ça. Mais on est encore uniquement dans la partie qui s'appelle le Mercure. On atteint un nouveau tout quand on atteint la quatrième dimension de ça. Alors, on passe maintenant de 69, de 59 secondes à la minute. Ou des 59 minutes à l'heure. Et le Jupiter, c'est l'heure. Voilà la véritable puissance de Jupiter. Voilà le feu du Sagittaire, et vous voyez que c'est encore une maison mentale, c'est la maison mutable du Sagittaire, c'est la neuvième maison qui représente, comme toutes les mutables, la Vierge, le Gémeaux, le Poisson et le Sagittaire, ça représente le monde du mental dans sa procréation perpétuelle, qui emmène le soleil dans son devenir, dans ses enfants. Et alors après? Je reprends ceci maintenant, et je vais monter plus haut. Alors nous voyons que ceci, c'est un contenu, et un contenu. Jupiter est un contenu, car c'est un prolongement de Mercure. C'est un prolongement du soleil, de l'enfant. C'est un contenu. Il y a encore un contenu. Alors maintenant, simplement, représentez-vous ceci comme étant Jupiter. Lui Jupiter. Lui Jupiter, s'il vous plaît. 4 Jupiter, 2 Jupiter, 1 Uranus. L'Uranus, c'est Jupiter élevé à sa quatrième synthèse. Autrement dit, si je voulais faire Uranus ici, je ferais 8 cercles au lieu d'en faire 4. J'en ferais 8 plus haut. Et voilà ce que c'est Uranus. Alors, c'est une extension dans le temps. C'est-à-dire le temps passé. Donc c'est une mémoire, l'Uranus. C'est une mémoire de l'Antiquité. C'est la mémoire d'une période qui a été vécue. C'est une extension dans l'avenir, c'est une projection. Et c'est une possession déjà d'une zone dans l'avenir commensurable à la zone du temps possédée dans le passé. Et c'est une extension sur tous les plans en profondeur de tous les mercures imaginables, puisque ça commence 4 fois la puissance, la quatrième symétrisation de Jupiter. Et Jupiter est là le serviteur, l'employé fondamental spécifique d'Uranus. Voilà pourquoi l'Uralis représente dans le symbolisme psychologique du christianisme réel, il va représenter ce que nous appelons par le Christ, l'Uranus, est l'équivalent du Christ. S'il y a eu un Christ historique, c'est parce qu'il y a l'Uranus dans le cosmos. La loi de progression de l'idéation, la loi de progression de l'idéation, la puissance paternelle du soleil est capable d'engendrer un Christ dans des conditions données, et seulement dans ces conditions données. Les conditions vont maintenant être lesquelles? Ceci est devenu l'Uranus, n'est-ce pas? Absolument, je fais ça maintenant comme ça, le temps passe. Je vous ai maintenant les trois contenus. Et j'aimerais encore, vous pensez bien qu'il y aurait des choses à dire alors sur ce contenu suprême qui s'appelle l'Uranus, enfin, la conscience, plus exactement, mieux que la conscience. Ce mot est encore beaucoup trop baveux. Le cristal. La lumière, l'intelligence de feu, cette intelligence absolument qui a pu dire « Je suis avant qu'Abraham soit né et ma parole demeure éternellement. Le monde passe, mais ma parole, mon vertu, que je suis, demeure éternelle. » Voilà la production. Car le soleil est à la contribution que lui apporte tout l'ensemble de l'économie cosmique. Puisque le Saturne vient intervenir par les plans supérieurs, c'est ça qui permet au petit soleil de l'homme d'engendrer un fils qui est un véritable fils de Dieu, en même temps que fils de l'homme. Pour revenir à la parole du Nouveau Testament. Quand Jésus dit « Je suis le fils de l'homme », qu'est-ce qu'il veut dire ? L'homme, en lettre majuscule, c'est toujours Uranus, c'est le monde du Verseau, l'homme. Le monde de l'âme du monde, c'est le poisson. Mais le monde de l'âme de l'homme, c'est le Verseau. C'est l'âme de l'homme que vous sentez à travers tous les hommes particuliers lorsque vous êtes fortement Verseau. Voilà la générosité, la tolérance que vous donne le Verseau en vous-même. C'est que vous sentez l'âme de l'homme battant, de l'homme total battant dans tous les hommes particuliers. Vous n'êtes pas dupe de ce particulier, c'est toujours l'ambassadeur de cette chose centrale qui est l'homme, l'humain. Les humanistes, les grands humanistes ont été des gens du Verseau. C'est logique, ça. Et ça doit précéder l'état sublime qui est cet identificat ou cette découverte de l'âme universelle, au-delà de celle de l'homme. Mais le Verseau, c'est ça. Et l'Uranus, c'est ça. Sur le plan humain, c'est littéralement ça. Nous le retrouvons en chimie. Nous le retrouvons en mathématiques. Nous le retrouvons dans le simple jeu. On peut reconstituer ça sur un plan très petit. Ce soir, je vais vous en donner une dernière image de cette reconstitution de ça dans une opération mentale. Alors maintenant, il faut que je tienne un instant au contenant. Et la prochaine fois, je prends les contenants et ensuite je les combine. Alors maintenant, les contenants. Le premier contenant, c'est la Lune. Sa fonction, c'est de soutenir le premier Mercure. Et en réalité, que le Mercure. Elle le soutient, par conséquent, tant qu'elle le soutient, tant qu'elle fait cette extension, ça permet la perpendiculaire. Si elle ne soutient pas l'horizontale baisse, si l'horizontale baisse, la perpendiculaire ne la saisit pas. Si la perpendiculaire ne la saisit pas, alors il n'y a plus de mercure, il n'y a pas de prise de conscience. Le soleil reste dans l'inconscient. Le jeu de bascule de la lune dans la balance, c'est formidable ce que ça donne. La mathématique de la chose, la géométrie de la chose. Le retour à l'inconscient. Bon, la Lune soutient. Alors elle soutient l'enfant du soleil. Elle soutient le futur soleil. En ce sens, on dira qu'elle est sa mère. Mais alors, quel est le second contenant? La montée s'est faite ici, jusque-là, grâce à la Lune. Mais alors ici, pour que ça devienne Jupiter et une montée de Jupiter à Uranus, qu'est-ce qu'il faut? Un autre contenant. L'autre contenant, Saturne. Saturne, c'est la Lune à la quatrième synthèse de la Lune. Quatrième synthèse de la Lune, ça, je vais mettre au tableau noir la prochaine. La Lune élevée à sa quatrième synthèse, c'est Saturne. Ça vous étonne de penser à un rapport pareil entre la Lune et Saturne, mais vous verrez dans un moment comme cela. Et la quatrième synthèse de Saturne, c'est Neptune. Alors vous avez les trois contenants, Lune, Saturne, Neptune. Quatrième synthèse de la Lune, Saturne, quatrième synthèse de Saturne, Neptune, dont Neptune, 16e synthèse de la Lune. Comme Uranus est la 16e synthèse du Mercure. Oui. Alors vous voyez, pour la puissance jupitérienne, c'est le fameux feu dans le poêle dont je parlais tout à l'heure au début. Le feu dans la tente, c'est le petit feu qui est là, tenu par la Lune. Ça s'évapore, ça n'est pas de grandes conséquences, ça ne fait pas plus qu'un petit mercure. Ça ne sort pas de ce plan, ou à peine. Ça monte, mais enfin, ça monte, oui, parce qu'il y a de quoi monter. Et si la Lune est bonne, ça montera. Si la Lune est mauvaise, ça ne montera pas. Et c'est une explication d'une mauvaise Lune dans un thème, ça. Les variantes de ça. Alors, la géométrisation psychologique de ça. Bon, maintenant, alors, au moment que ça arrive au feu du Sagittaire, alors à ce moment-là, attention, il nous faut un autre contenant. Le cadre de ça maintenant, ça va être Saturne. Et alors grâce à Saturne comme contenant, qui l'encadre tout le temps, ce feu va monter droit. Il va monter de plus en plus fort. Il va se conserver en lui-même de plus en plus, car Saturne c'est le grand conservateur. Il va conserver ce feu, il ne va pas le détruire, il va le conserver, il va l'accentuer, et finalement il le fera déboucher ce feu, au niveau où le Saturne lui-même ne peut plus rien faire. Où lui-même fondrait sous la puissance de Jupiter. Est-ce qu'il devient grand? Où la fonte elle-même fondrait. Alors à ce moment-là, il faut que le Jupiter tape au-dessus et il entre maintenant dans un nouveau contenant fait d'un métal infiniment précieux, absolument imbrûlable, infondable, qui est le contenant Neptune. Et Uranus ne se développera que dans le contenant de la mer et la mer divine. Et vous voyez bien que dans l'imagerie chrétienne, dans les tableaux de l'art du Moyen-Âge, où l'on voit le Christ, le Fils de Dieu, couronnant même sa mère, il couronne sa mère, ces fameux tableaux, où l'on voit le Père éternel du haut et derrière un nuage, regardant cette scène touchante, où le Fils, sur un nuage, couronne sa mère, qui est elle-même assise sur un nuage. Il la couronne de 12 étoiles. Le Fils couronne sa mère. C'est le moment où Uranus, le Christ, n'a plus besoin de sa mère. Il en a plus la salle. Elle lui a permis d'atteindre la puissance du cristal christique. Elle a permis à cette intelligence transcendante, qui est le centre même de la connaissance, qui connaît le passé et l'avenir humain, elle lui a permis de grandir jusqu'au moment donné où il atteint la dimension même de sa mère. À ce moment-là, elle qui est donc le contenant et qui est féminin, cesse d'être un contenant, elle est exaltée. Lui n'a plus besoin d'être un contenu, en tant qu'Uranus est contenu, il est exalté. Vous avez l'exaltation de Neptune et de l'Uranus à ce moment-là, et à ce moment-là, vous avez l'androgyne, il n'y a plus ni continent ni contenu. Et dans le sommet du Neptune, vous avez l'androgyne où la polarité sexuelle a cessé. Voilà le fin mot de la marche intérieure d'un horoscope. C'est exactement ça. Et pour finir ce soir, faire une petite démonstration très pratique pour voir comme ça joue. Maintenant que j'ai introduit le fameux fourneau de Saturne, le contenant saturnien, et que Saturne est aussi une lune, et j'ai dit tout à l'heure que comme la lune se refuse à soutenir l'enfant du père solaire, et le principe masculin, quand elle se refuse à soutenir le principe masculin, il n'y a qu'une chose qui arrive, ce qu'elle ne soutient pas et qui est toujours masculin, est éliminé. C'est ce que nous appelons les excréments dans la vie. Toute l'excrémentation vient de ça. C'est le déchet. C'est le déchet inutilisable. Ça lui dit, mais je ne veux pas soutenir ça. Ça ne rime plus à rien. Parce que le soleil ne crée plus là-dedans. Et elle reconnaît ça quand elle est saine, l'amour. Elle le reconnaît tout de suite. Maintenant, prenons ça au point de vue Saturne. Saturne est une lune. Saturne est une femme aussi. Saturne est féminin, attention. Au sens féminin aussi, Saturne. Parce qu'il représente le soleil dans l'axe du Capricorne, qui est un axe féminin. Il représente le soleil, mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'est pas féminin, c'est encore une des subtilités de l'astrologie de comprendre le rôle du féminin qui est à la fois féminin et masculin, suivant la position qu'on lui donne. Alors, le Saturne, maintenant, le voilà, contenant. Maintenant, regardez comme ça joue. Tout à coup, il va être lui, une lune qui se refuge à supporter, à soutenir l'enfant du soleil. L'enfant, il se refuse à soutenir le masculin. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça c'est très simple. Vous voilà là, vous avez développé ça, Mercure. Vous avez développé un Mercure un peu plus subtil, encore plus subtil. Oh, mais maintenant vous y voyez beaucoup plus clair. Oh, mais voilà emballé maintenant. Oh, voilà devenant jupitérien, hein. Oh, là, la flèche part en vous. Oh, vous saisissez des tas de choses. Elles vous viennent toutes à la fois. Oh là là, là 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 là. Vous, c'est très merveilleux, attention. Et vous filez par la gauche, et vous filez par la droite. Et vous dites, ah, maintenant j'ai trouvé. Ça, cette idée-là, ça, c'est du Jupiter qui crachait. Cette fois-ci, c'était la grande idée. Et puis, il y a la Lune de ça, spécifique pour ça, c'est le Saturne. Le Saturne est le cadre de ça. Regarde cette espèce d'idée jupitérienne. Il la regarde et il dit, non, elle ne vaut pas mon contenant. C'est pas du vrai feu pour mon contenant. C'est encore du feu. C'est du feu, mais c'est du feu de ça encore. C'est du feu de ça. C'est pas de l'anthracite, c'est peut-être encore que des briquettes. Vous comprenez? N'est-ce pas? Alors, je ne le soutiens pas. Le moment où Saturne se refuse de soutenir cette idée qui a déjà des éléments de Jupiter en elle, tout à coup, vous vous dites, mais, ça tient plus. Je ne l'ai plus dans la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Et vous la cherchez. Mais alors cette fois-ci, elle n'est pas tombée au-dessus du niveau de la Lune, elle est retombée dans le niveau de la Lune. Et vous la retrouvez au plan de la Lune. Vous la retrouvez plus simple. Vous en retrouvez les éléments et vous allez la ramasser, cette idée. Le Saturne l'a fendue en morceaux, a dit, elle n'a rien à faire dans mon domaine, dans mon contenant. Je ne vais pas plus l'encaisser, cette idée. Voilà, je ne vais pas plus l'encaisser. Ah, alors donc c'est pas diable, alors il faut. Alors c'est un déchet. Mais l'idée a tombé dans un plan où on va la retrouver sous ses éléments plus simples et on la reconstruira jupitériennement jusqu'à ce que finalement Saturne dise « Je la soutiens ». Et c'est ainsi que notre intelligence et tout notre monde mental, et non seulement le monde mental mais tout le monde organique de l'homme, et non seulement le monde organique de l'homme mais c'est tout le monde intérieur à tous les ordres de l'idée de l'homme. Pour ne parler que de l'homme, c'est comme ça que les processus de développement se passent. C'est comme ça. De plan en plan. De contenu à contenant, à contenu à contenant, à contenu à contenant. Et comment est-ce qu'on passe d'un contenant à un contenu? Et comment est-ce qu'on redescend d'un contenant à un contenu? Ce sera le mystère, probablement, que je chercherai à expliquer un peu mieux. Alors, pas mieux, mais enfin, je commencerai à expliquer jeudi prochain, car de là, nouveau, nous avons un sujet énorme. Je crois que je m'arrête là ce soir. Vous avez vu, jeudi dernier, si on n'a pas compris Mercure, si on n'a pas compris tout simplement sur le plan humain ce que c'est que l'idée, l'idéation, ce phénomène de l'idéation, le fait de l'existence de l'intelligence, celle qui aussi engendre, si vous voulez, les idées, mais qui est elle-même faite d'idées, qui est une texture d'idées, et qui les manœuvre, n'est-ce pas? Si l'on n'a pas compris ça, on ne pourra pas comprendre la conférence précédente. Et on comprendra à plus forte raison, moins encore, la grande idée qui est la synthèse de la vie. Idée particulière, première idée, élémentaire. Première idéation, idéation au premier degré. Puis idéation au deuxième degré. C'est déjà une idée moins particulière, déjà sans brillance, ébauchant une idée générale, relativement déjà générale. Puis, idéation au troisième degré, idée qui devient vraiment idée générale. Et puis alors, tout à coup, on passe dans un autre plan, subitement, comme on passe de la minute à l'heure, lorsqu'on atteint la 50e minute, et tout à coup, nous arrivons à l'idéation dans sa quatrième degré, et quand on dispose de l'idéation au quatrième degré, c'est-à-dire à sa quatrième synthèse, alors on a là l'idée générale, l'idée vraiment générale, et tout va dépendre maintenant de la mesure dans laquelle vous aurez compris ce mot synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Thèse, préfixe fin. Au dictionnaire vous raconte ça. Synthèse. Tout tient dans ce mot. Il y a des idées qui sont des synthèses d'idées. Il y a des idées qui ne sont pas des synthèses d'idées. C'est l'idée la plus simple. Au plan le plus proche de la vie de l'inconscient. Mettons ça comme ça. Mais dès que l'idée se développe, elle suit une loi mathématique dans son développement. Elle procède de synthèse au deuxième, au troisième et finalement au quatrième degré. Et lorsqu'elle est au quatrième degré, elle n'est plus simplement une idéation mercurielle, elle devient une puissance d'idéation et une prolifération d'idéation jupitérienne. Ça, c'est le sujet de la conférence de la semaine dernière, et je crois néanmoins nécessaire de légèrement reprendre ça avant de m'embarquer aujourd'hui. J'avais ajouté que, après, c'est encore une quatrième fois la synthèse de Jupiter lui-même, et vous avez l'Uranus du Thème. Donc voilà les contenus. Le Mercure, le Jupiter et l'Uranus. Tous des principes masculins, tous des planètes essentiellement des forces de la nature, des forces de notre nature. Nous sommes sur le plan de l'homme, des forces dites masculines, c'est-à-dire des forces qui ont la puissance d'engendrer, alors que les forces dites féminines ont la puissance qui leur est exclusivement donnée, qui est bien la leur, c'est de porter l'engendrement. Soutenir, supporter, être la coupe, la forme. Et alors, justement, les mères aimées à 100 grades, erreur, les mères qui sont en même temps les femmes, ce sont les planètes féminines. Alors, celles-là, en tant que mères, bien sûr, assurément, le terme l'indique, et aussi bien en tant que femmes, sont la Lune, Saturne et Neptune. Elles ont, elles, la propriété d'encadrer le contenu. Elles sont le contenant à l'intérieur même de l'horoscope. Et qu'il y a une hiérarchie, une parité de valeur entre le Mercure et la Lune, car la Lune est essentiellement intéressée d'apprendre la première, l'engendrement du soleil, que le soleil fait, donc le fait qu'il engendre Mercure. La Lune va faire tout ce qu'elle peut pour que le Mercure soit viable. Une Lune normale, c'était pour ça, nous parlons ici des lois, nous ne parlons pas de thème particulier. Elle est là pour rendre ce Mercure viable, pour qu'il se développe, il faut que son père en produise d'autres et d'autres et d'autres, comme je l'ai dit l'autre jour, je n'y reviens pas. La Lune est indirectement seulement intéressée au fonctionnement du deuxième contenant saturnien et encore plus indirectement intéressée au contenant du troisième contenant, le Neptune. Nous allons maintenant venir à ça. D'abord, voyez ce dessin-là. Vous avez trois carrés. Et ces trois carrés sont emboîtés les uns dans les autres en profondeur, n'est-ce pas? C'est en profondeur. Premier carré, la Lune. Toutes les puissances féminines sont des quadratures. Sont des carrés. Elles embrassent, et j'entends qu'elles sont des carrés parce qu'elles sont ici des forces archétypiques. Elles embrassent le cercle qui est inscrit dedans. Il faut toujours dans la loi de l'univers que le cercle, quel qu'il soit, soit inscrit dans un carré. C'est toute l'idée de la croissance. C'est toute l'idée qu'il n'y a de cheminement et de développement de ce qui est cercle par ce qui est carré. Voilà. Et le carré garantit cette force et cette chose qui est absolument essentiel, à savoir les qui. Songez à quel point appeler ça, j'ai une amie à Lausanne, je suis sûr qu'elle emploierait le mot truc ici pour ça, que ce truc qu'on appelle le carré, quand vous pensez à un carré, un cadre, comme un cadre sert bien à l'équilibre, c'est pas seulement la barre d'un acrobate sur une corde, mais c'est un cadre. Voit derrière lui, soit devant lui, soit à droite, soit à gauche, le carré, le cadre, garantit le mouvement perpétuellement trébuchant, puisque la marche et le mouvement, c'est toujours le discontinu, c'est toujours l'équilibre qui se perd et qui se retrouve, et qui se repère et qui se retrouve. C'est ça l'oscillation même de la conscience, et c'est là l'oscillation de la vie. Tout ça pris dans la quadrature, tout ça pris dans le carré. Voilà pourquoi les forces féminines sont des carrés. Et que le premier sera la Lune, que le deuxième sera le carré de Saturne, et que le troisième sera le carré de Neptune en profondeur. Ici, je mets le Soleil, générateur de tout ce qui va vraiment. Ordonnateur de tout ce qui va ensuite le prendre dans son devenir et lui assurer l'expansion de son travail en devenant Jupiter, en devenant Uranus, en devenant d'abord Mercure. Premier mouvement. Ici, nous allons mettre Saturne. Ici, nous allons mettre Neptune. Ah, je devrais plutôt, excusez-moi, je me trompe, je devrais mettre Saturne ici, le 4, je devrais mettre ici Jupiter, bien entendu. Voilà Jupiter et voilà Uranus, voilà. C'est toujours à l'angle, au bas de l'angle de la quadrature, que l'ascendant d'un carré, c'est aussi une chose intéressante à noter, que c'est ici. Vous prendre l'ascendant, le point de départ de la marche dans une quadrature, dans un carré, vous le prendre, c'est en bas à gauche. On le prend là, ça correspond à l'ascendant du thème d'ailleurs. Et on le prend là et on le prend là. Trois prises de conscience à des plans différents à l'intérieur de l'être. Chacun représente dans la différence qu'il y a entre 59 secondes et une minute, un autre monde, 59 minutes et une heure, qui est un autre monde, et finalement 24 heures, 23 heures 59 minutes, qui est une chose, et 24 heures, qui est un autre monde, qui est le jour. Alors vous avez cette proportion, si vous voulez, là. C'est la même idée, en tout cas. Maintenant, je vais... Oui. Ici, je voulais continuer ça en montrant cette même concentricité en carré, de la faire en cercle. En somme, c'est absolument la même chose. Au point de vue visuel, c'est ainsi que le thème se présente, et d'ailleurs c'est ainsi que le monde astronomique qu'il soit géocentrique ou héliocentrique, c'est comme ça que les planètes se présentent. Le mouvement, la vie sidérale, les orbites des planètes sont en effet concentriques, les uns derrière les autres en profondeur, ce qui fait que celui-là, qui sera le Neptune, correspondra à celui-là, ici. Alors là, c'est vrai que c'est une inversion, parce que plus c'est petit, moins c'est profond, et là, plus c'est petit, plus c'est profond. Neptune est là, l'Uranus là, le Saturne ici, le Jupiter là. Et alors, nous avons cette gradation qui monte, comme nous avons cette gradation ici, qui monte. Bon, j'ai parlé d'une gradation qui monte. Encore deux mots sur ce principe du carré étant féminin. Mars et Vénus, que sont-ils? Ils ne sont pas autre chose qu'un cercle. L'un est inscrit dans un carré, et ceci nous représente Mars. Comment va faire ce développement en équilibre dans la quadrature, de sorte que la Vénus sera devenue Mars? Dans un cas, elle sera devenue Mars, et dans l'autre, c'est Mars qui sera devenue la Vénus. Oui, ça, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir. Je le dis simplement en face. Il y a certainement un rapport de proportion inverse entre Mars, bélier, ascendant, et taureau, deuxième signe de l'ascendant, vénusien, et balance, vénusienne, et scorpion, martienne. Le rapport de du cercle au rapport au carré entre la balance et le scorpion est un rapport inverse à celui du taureau et du bélier. De ça, aujourd'hui, je suis certain. Et ceci est un sujet tout autre. C'est simplement pour parler de cet éternel histoire toujours la même, passer du cercle au carré pour pouvoir finalement dépasser ce carré dans un cercle plus grand, puisque le cercle, c'est le dernier mot de toute la vie. Ayant dit ça, je vais tout de suite passer à cette fameuse synthèse. Voilà. Vous avez vu l'autre jour, je ne remonte pas le dessin, je crois que j'ai les mêmes auditoires. Vous avez vu l'autre jour 8 Mercure alignés sur une ligne, puis 4 Mercure, deuxième degré d'iliation, puis 2 Mercure et finalement le degré d'iliation jupitérienne. Est-ce que vous imaginez ce que c'est qu'une idéation jupitérienne? Est-ce que c'est formidable? Quel fourneau! Bon, alors maintenant, l'équivalent ici, 8 lunes. Première maternité. Premier cadre. Première ébauche de cadre. Pour le petit Mercure primitif, élémentaire, sa première enveloppe. Son premier contenant. Mercure ne doit jamais être sans un contenant. Jamais. L'idée doit avoir son contenant où elle est perdue. Elle n'existerait même pas comme idée. Réfléchissez à l'immensité de cela. dans un cadre, l'idéation serait impossible. C'est le rapport entre le cadre et le cercle qui fait l'idéation. Donc toujours le cadre, toujours la puissance maternelle et la puissance féminine, compagne et mère, tour à tour, jusqu'à ce que finalement cela soit le Neptune. Alors, deuxième maternité, deuxième synthèse de la puissance de la Lune. Deuxième synthèse, disons sur le plan psychologique, celui que l'on peut saisir avec les mains, si l'on veut presque, si on a les idées au bout des doigts, dites que ça est une certaine synthèse de la qualité ou de la densité plutôt de notre puissance d'émotion, notre puissance de sensibilité. Deuxième synthèse de la sensibilité. Deuxième synthèse, si vous voulez, simplement de la conscience elle-même, en tant qu'elle n'est pas l'être. Car l'être, ce n'est pas la conscience, et la conscience, ce n'est pas l'être. Nous avons la conscience d'être. Nous pouvons être sans en avoir la conscience, ça nous arrive tous les jours. Mais il y a quelque chose de mystérieux qui est la conscience d'être. Or, la conscience d'être, c'est l'élément féminin dans nos natures. C'est cela qui accompagne toujours l'être. C'est donc le cadre, c'est donc le contenant, la conscience du soleil et son contenant, et lui est le contenu de la conscience. Et la lune, dans son extension, dans son volume, dans sa densité, dans sa vitesse, et surtout dans son rythme, représente la pulsation de la conscience d'être. Cela a un autre mot, ça a le mot existence, puisque le mot existence lui-même représente, comme son origine le dit, ce qui dépend de. Or, l'existence dépend de l'être. Nous existons parce que nous sommes, et nous ne sommes pas parce que nous existons. Voilà toute la question de la grande inversion cosmique. Être parce que nous existons. C'est la voix de l'adversaire, ça. Représente justement la bascule de tout l'équilibre, ça. Être parce que nous existons, ou exister est certainement de plein droit parce que nous sommes. Quatrième synthèse de cette lune, Saturne. Prenez une petite image. La semelle d'une sandale, la semelle d'une petite pantoufle nocturne, bien mince, bien souple, tout ça confortable, pas lourd à porter. Bon. Là-dedans, il y a le pied. Le pied est le Mercure et la petite semelle, c'est la Lune. Oui, mais s'il faut faire des marches solides, et puis avec ça, des marches rapides. Alors, on a ajouté à la semelle d'autres couches de semelle. Et le bottier diplômé va savoir, selon l'usage que vous allez avoir à faire de vos pieds, il va vous donner en proportion la qualité des couches de semelle qu'il faut. Ça fait donc des contenants. Alors, ici, la quatrième contenance, c'est le Saturne. C'est la lune élevée à la quatrième synthèse de la conscience. Qu'est-ce que peut être une synthèse de la conscience? Pensez à ça. Toute une conférence serait à faire rien que sur cette définition d'une synthèse de la conscience. Ignorant délibérément la synthèse de l'être. Qui se trouverait, elle, particulièrement dans le Mercure, n'est-ce pas? Car certes, la synthèse de l'être, c'est dans le Mercure, le futur être. Synthèse de la conscience, Saturnine. Je crois que M. Neuromont lui-même, dans un de ses grands et beaux jours, écrivant quelque chose sur le nombre d'heures, c'est sûrement là que je l'ai lu il y a quelques années, a parlé de Saturne étant la lune élevée à sa quatrième puissance. Il parlait en mathématicien. Je vais surtout parler ici en Nicolas et mentionner plutôt que d'employer le terme de puissance qui demande à être préfouillé, le terme de synthèse. Tout le monde comprendra ça. Et tout le monde le comprendra, surtout si se donne la peine de le comprendre. Personne ne peut être fermé à la notion de la synthèse. Alors maintenant, allons plus vite. Si vous me suivez, et que cela représente donc pour le petit Mercure ici un contenant, pour le petit Mercure qui maintenant est double, ça représente deux contenants, pour le Mercure qui est triple maintenant, qui est la déviation au troisième degré ou à la troisième puissance, ça représente trois contenants, et maintenant c'est le Saturne pour le contenu qui s'appelle le Jupiter. Voilà. Autrement dit, c'est ce cadre pour une puissance, ici, jupitérienne, faite de la synthèse à la quatrième puissance, la quatrième synthèse de l'intelligence, telle que nous entendons ce mot, l'intelligence, quand il nous faut la conscience d'être, tout simplement la conscience d'être sans autre, la Lune, pour être conscient de notre intelligence et pour, par conséquent, permettre au Soleil de réagir et de proliférer de nouvelles idées. Alors, passons maintenant, si vous m'avez suivi, et je suis sûr que vous m'avez suivi, et si vous n'avez pas tout compris, je serais bien un peu jaloux si vous aviez tout compris, parce qu'on a pris un fameux temps pour comprendre ça. Je suis enchanté si je peux raccourcir les étapes de la recherche pour mon semblable. Je ne demande que ça. Mais quand même, quand on a tué pour une chose, et qu'on a dit en zigzag hors de la jungle et dans la jungle et ceci et ça, on aime assez voir quelquefois des gouttelettes de sueur sur les fronts des autres. Enfin bref, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps là-dessus parce que de suite maintenant je passe, alors c'est maintenant suprême, nous entrons dans le domaine vraiment d'inexprimable. Nous passons maintenant à la quatrième synthèse de Saturne et c'est Neptune. C'est-à-dire, c'est la 16e synthèse de la conscience, c'est-à-dire de la Lune. C'est la 16e synthèse de, si l'on veut dire que le mot existence est synonyme de conscience, c'est la 16e synthèse de l'existence. Vous avez de quoi faire des promenades dans le bois de Boulogne avec cette idée. 16e synthèse de la sensibilité. Une sensibilité, par conséquent, qui enregistre des choses. C'est un peu, si l'on veut prendre vulgairement l'image, une émulsion pour une plaque photographique, une qualité. Sensibilité tellement particulière. Il y a en même temps des propriétés de couverture, des propriétés d'imperméabilité, parce qu'elle représente autour de l'air une de ces zones de sensibilité, une de ces musiques, une de ces ondes de la sensibilité. Neptune représente autour de nous une zone, une onde de la sensibilité. Tellement haut, puisque c'est la 16e synthèse de celle de la Lune. Une vibrance tellement haut, un rythme tellement très accéléré, que sa seule présence, si elle est présente, est une désinfection totale de tout ce qui ne lui ressemble pas. C'est une protection instantanée de tout ce qui n'est pas de sa présence. Et dans ce sens, c'est un des sens dans lequel nous dirons Neptune est le contenant suprême, car il va être le contenant de celui qui mérite d'être contenu par le Neptune, c'est Uranus, 16e synthèse du miel. Est-ce que je me fais comprendre? Neptune, 16e de, de la Lune, et 4e de Saturne. Vous voyez qu'on ne peut pas passer simplement, ni avec le Mercure, ni avec la Lune, filer tout droit comme ça et additionner simplement une synthèse à une autre. Non, non. On change, c'était une chose capitale. On ne comprendra jamais rien à l'astrologie avant d'avoir compris cette grande loi cosmique de la part et de l'entier. Que la somme des arbres ne font pas la forêt. Voilà. Additionner tous les arbres, ça ne fait pas une forêt. La forêt, c'est ce plus qui se présente lorsque tous les arbres sont ensemble. Ça, c'est une loi fondamentale de l'hermétisme. Et donc, de la vérité. Il est une loi fondamentale, nous ne disons pas 70 secondes, nous disons 1 minute 10 secondes. Et nous plaçons les 10 secondes dans un autre plan. Eh bien, voilà pourquoi nous ne pouvons pas monter directement de la Lune à Neptune. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Additionnez-moi les synthèses, comme vous voudrez, vous n'arriverez jamais à Neptune avec la Lune. Il faut passer au plan dit Saturne. C'est un autre entier de Saturne. L'entier de la Lune est fini quand on arrive à Saturne. Et l'entier de Saturne est fini lorsqu'on arrive à Neptune. Il n'y a pas de route gratuite. Il n'y a pas de, comment est-ce qu'on appelle ça, des shortcuts, des abrégés à montagne. Des raccourcis, il n'y en a pas. Absolument pas. Rien n'est donné. Rien n'est gratuit. Voilà pourquoi à ceux qui se diraient très naturellement, mais pourquoi ne puis-je pas monter tout simplement de la Lune à Neptune? Évidemment, en y ajoutant tout le temps cette synthèse nouvelle de la Lune. Mais non. Voilà pourquoi Saturne existe. Il prend toutes les synthèses de la Lune, il les télescope en lui-même. Il crée une entité nouvelle, vraiment nouvelle. Et là, il monte lui-même avec ça. Il va finalement renoncer à lui-même en passant sa charge et son contenu jupitérien à la mère divine qui est ce Neptune, 4e synthèse de Saturne. Voilà. Ceci dit, je passe. Ce soir, nous allons toucher un autre, mais toujours lié à ça magnifiquement, naturellement. Nous allons passer, nous allons serrer de près un autre mystère. Car en somme, ce que je vise dans ces conférences qui sont presque plutôt des cours, c'est de vous expliquer pourquoi l'astrologie colle. Pourquoi ça colle? Pourquoi ça joue? Pourquoi, quand on la comprend, on peut contester? Bon. Ne plus être des bons élèves et des bons perroquets d'une tradition astrologique à laquelle on ne comprend rien, et dont on ne donne même pas la peine d'aller s'assurer de ses lettres de crédit. Remonter aux sources. C'est ça, développer la synthèse de Mercure. Quelle idéation et quel degré d'idéation de faire ça. Et comme il faut que ce soit du Jupiter dans le cadre de sa mère. En Saturne, il n'y a pas d'astrologie possible dans le cerveau. Ça va de soi. Je vais reprendre une seconde ici, parce que ça va m'amener à quelque chose de formidable. L'idée que j'ai donnée à la fin de ma dernière causerie, à savoir, quand une idéation est devenue, est montée au plan de Jupiter, c'est-à-dire lorsque votre idéation vous stimule en vous un enthousiasme, un emballement de l'image qui se présente à votre esprit, semble électriser votre conscience, et que ça amène des échos de tous les côtés et des résonances. Et que vous vous dites, oh, Eureka, j'ai trouvé cette idée-là, c'est le palais d'une vérité formidable, je l'ai trouvé, maintenant je n'ai plus qu'à montrer et prendre possession de cette vérité dont cette idée me donne la compréhension. Et j'ai dit, si Saturne est vraiment portante, si elle a vraiment été le cadre porteur de cette procréation-là, alors l'idée va vivre. Elle va donc encore grandir. Et vous entrez davantage dans le monde de votre monde jupitérien. Mais si Saturne se refuse à être matrice de l'idée en question. Si Saturne se refuse à porter cet enfant, il s'agit pas de la Lune maintenant. La Lune, elle porte presque n'importe quoi. Il s'agit de Saturne. Portera-t-il cet enfant, oui ou non? Et s'il dit non, alors tout à coup, le lendemain, ou 2 heures plus tard, vous dites, mais où est-ce qu'elle a filé cette merveilleuse idée? Je croyais avoir atteint le palier d'une vérité transcendante. Je ne veux pas y avoir des horizons, mais absolument éperdu, infini. Je vois plus rien. Eh bien, c'est Saturne qui aura joué ça. Saturne aura dit, c'est pas assez bon pour mon cadre. C'est pas assez bon pour ma compagnie et pour mes soins. Je refuse d'accepter cette idée. Alors, où va-t-elle, cette idée? Quand un astre féminin refuse l'idée qui est toujours masculine dans son origine et dans sa consistance, le masculin est obligé de disparaître au-dessous du niveau de la puissance portante du féminin. C'est une idée absolument transcendante et qui explique des mondes de choses. Lorsque la Lune se refuse à porter la génération du Soleil, donc des Mercure à tous les étages, alors c'est que la Lune s'inverse, elle refuse, et les petites idées qui sont quelquefois uniquement, enfin, sur le plan même biologique, tout ça fait patatras, et ben où? Mais ça va dans l'inconscient. Ça ne peut aller que dans l'inconscient puisque ça en est sorti pour commencer. Alors ça va dans l'inconscient. Mais quand c'est Saturne qui s'inverse, et le mystère de l'inversion de l'astre contenant et de l'astre contenu, c'est ça à quoi je m'en vais venir maintenant. Mystère de l'inversion de l'astre contenu et contenant. Alors la Lune s'inverse. Elle ne contient plus, elle ne porte plus, patatras, ce qu'il y avait dans sa coupe disparaît, et le soleil est là, en train de se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne saisis plus mon enfant. La Lune a dit, non, il n'est pas assez bon. Il n'est pas assez bon pour moi, refais-le. Recommence. Papa, recommence. Alors, papa doit recommencer. Alors, le Saturne, maintenant, se donne une autre maman. Et elle dit, bon, il faudra que tu recommences, Jupiter. Hein? Je recommence. Bon, alors, où est cette idée que j'avais apportée ici sur ce plan? Alors, Saturne dit, tu le retrouveras. Tu la retrouveras sur le plan de la Lune. Parce que naturellement, ça n'ira pas dans l'inconscient. Ça ira du plan, de la première synthèse, de la première idéation, celle dans laquelle ça fait d'abord Donc, une idée est à tort, qui vous emballe, qui vous assure, peut-être dans un rêve, vous avez une idée dans le rêve, oh, ça y est, je l'ai trouvé maintenant. Mais quand le matin vous vous réveillez, vous dites, mais je ne sais plus ce que c'était. Mais c'est toujours Saturne. C'est toujours Saturne qui se refuse à porter la procréation. L'idée qui se fait dans le sommeil, c'est-à-dire dans le rêve. Quand vous ne retenez pas le matin, quelle que soit la communication, sous quelque forme que ce soit, le contact, quel qu'il soit, de la nuit, c'est que Saturne s'est refusé à en être la mère. Ça recommence. Mais vous voyez où ça va. C'est que leur Neptune, la mère divine, elle n'accepte que l'enfant divin. Et si, et c'est le devoir de Saturne, c'est pour ça qu'il est synonyme de Saint-Pierre, celui qui garde la clé du paradis, c'est que Saint-Pierre, Saturne, ne peut vraiment décemment passer à la coupe de la mère divine, autre chose qu'un Uranus dans son état premier. Neptune n'acceptera jamais de donner sa sollicitude réelle, 16e synthèse de la puissance de la conscience, qu'à l'enfant vraiment pur, initial peut-être, dans son premier stage, mais l'enfant vraiment divin. Celui qui ne connaîtra plus les misères, les subordinations, les changements et les crucifixions. Voilà que je viens de toucher le sujet de l'inversion des coupes dans l'inversion des forces féminines. Voyons comment ça joue. Et là, nous allons devoir nous introduire de nouveau à cette merveille que l'astrologie seule nous donne et qui est, à proprement parler, son domaine spécifique, c'est de nous faire distinguer et puis alors, en le distinguant bien, de nous faire vivre l'analogie dans l'homme du système binaire Terre-Lune et du système trinaire Terre-Lune-Soleil. Quand vous pensez, mes chers amis, que la Terre, avec la Lune, a un balancement perpétuel, ça c'est de l'astronomie. N'importe quel livre d'astronomie vous le dira, et un planétarium vous le montrera quand il présente bien les choses. Et vous avez cette Lune qui tourne autour d'un centre de gravité autour duquel répond également la Terre. Et il y a tout le temps cette oscillation entre ces deux astres, toujours tenue dans un certain équilibre, toujours instable et toujours retrouvée par l'axe de gravitation solaire, qui représente cette trinité de valeurs. Quand vous pensez à ce phénomène qui permet à l'existence de la Terre et de la Lune, cette solidarité, bon, et maintenant, tenez-vous bien, cette oscillation que je crois qu'il existe aujourd'hui des instruments assez sensitifs pour l'enregistrer, comme une espèce de séisme spécial. Et mes chers amis, il existe en chacun. Il y a cette oscillation entre la Terre et la Lune en nous. Et c'est ce mouvement oscillant. Seulement, ce n'est pas une oscillation simplement entre deux pôles fixes, ou simplement le jeu d'un pendule qui va et vient. Quelques-uns d'entre vous peuvent vivre par une expérience interne le fait de l'oscillation. J'en sais ici, dans cette salle qui est longue, je suis jolie, je ne l'ai pas vécu une fois, je l'ai vécu au moins 15. Et sentir non seulement l'oscillation, mais du moment que Terre et Lune sont tout le temps en mouvement sur l'orbite commun. Car le plan de l'orbite de la Terre, c'est le centre de gravité Terre-Lune-Soleil. C'est pas la Terre elle-même. C'est ce centre de gravité commun qui fait l'entité totale. Or, ce mouvement qui est constant et qui représente le tour que la Terre fait en un an autour du Soleil, change tout le temps l'oscillation. L'oscillation est là, mais la position de l'oscillation est changée. La position de l'oscillation, et qu'est-ce que ça donne? Et ça donne la spirale. Une oscillation qui avance, dont l'axe de gravitation est en avance, ça vous donne une spirale. Et c'est tout le temps la clé de la structure de la spirale dans tous les plans de la vie. Tout est en spirale, et pourquoi est-ce tout en spirale, bon Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a au centre de la spire? Que de fois je me suis demandé ça. D'accord, tout est en spirale. D'accord, je comprends qu'on monte ou qu'on descende. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a au centre de la spire? Et pourquoi est-ce que c'est une spire et pas un cercle? Alors j'ai la réponse, je vous la donne maintenant. Et je vais la donner maintenant par un dessin, et je crois que ça va être très éloquent. C'est qu'au centre de la spire, il y a la présence de l'axe du soleil. Que c'est ça qui assure, et comme ça avance tout le temps, parce que c'est la croix solaire qui descend entre la Terre et la Lune, et qui les unit. C'est le bras de croix héliocentrique qui fait ça. C'est la croix solaire qui descend là. C'est ce bras divin qui descend là. Et à mesure qu'il avance, il fait prendre le mouvement autour de lui, de la Terre et de la Lune, et ce bras avance, ce bras avance, ce bras, faisons-le comme ça, ce bras divin avance, et la Terre et la Lune sont à hausse, et ça avance, et ça va comme ça, ça va comme ça, mais forcément ceci avançant, et ceci prenant dans toutes les positions, ça nous fait une spirale oscillante. Cela, c'est tout le mystère de ce qu'on appelle le fameux degré. Qu'est-ce que c'est qu'un degré en astrologie? On parle de 360 degrés. Sur la cartographie de la Terre, on parle de 360 degrés du thème. On parle d'une planète dans un certain degré. On parle surtout d'une pointe de maison dans un certain degré. Qu'est-ce que c'est que la substance du degré? Qu'est-ce que c'est que sa substance, son mécanisme, son jeu? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, le voilà. Voilà le degré. J'espère que tout le monde le voit. Je vais, je crois, ajouter quelque chose à gauche et à droite, alors je ne vais pas prendre trop de place. C'est le degré. Il n'y a pas de degré sans la croix interne. Car le degré, c'est la réussite de deux opérations simultanée et jumelle, qui est le rapport entre la Terre qui est là, et la Lune qui est là, et le Soleil qui est là. À ce rapport-là, vous avez là deux plans catégoriquement, celui-là et celui-là. La combinaison jumelée de ça nous donne le degré qui est vivant. Car il n'y a pas de degré mort, c'est de degré vivant, parce que c'est précisément que ce mouvement circulaire est symbolique maintenant de cette oscillation transportée, toujours emmenée, faisant donc cette espèce de spirale, et que la puissance qui permet que ça soit ainsi, c'est la puissance verticale qui vient au centre du degré. C'est tout le thème, le degré. Le thème n'est pas autre chose que le degré.